Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Bande dessinée et histoire au programme du réveil culturel aujourd'hui. Effectivement, il y a 50 ans, le 28 avril 1969, pour être précis, à l'issue d'un référendum portant sur le transfert de certains pouvoirs aux régions et la fusion du Sénat avec le Conseil économique et social, le général de Gaulle quitte le pouvoir définitivement. Il avait annoncé son intention de démissionner en cas de victoire du non, et c'est le non qui l'emporta. Et un peu plus d'une année plus tard, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle meurt dans sa demeure à Colombey-les-Deux-Églises. Comment raconter aujourd'hui la vie de cet homme intimement lié à l'histoire de la France du XXe siècle? Le héros des deux guerres, le sauveur de l'honneur de la France, l'homme des décolonisations, l'homme providentiel d'un pays en crise, mais aussi de Gaulle, le vieux président vieille France conspué en 1968. En 4 tomes édités par Grand Angle, la vie du général de Gaulle résumée en bande dessinée avec au scénario l'historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle, Jean-Yves Le Naou, et au dessin Claude Plumaille, qui sont mes deux invités ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Le général de Gaulle raconté en bande dessinée. Bonjour Claude Plumaille, bonjour Jean-Yves Le Naour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, comment restituer le parcours du général? Alors, je suppose que c'est l'historien qui s'est occupé du scénario.
Mais oui, tout à fait. Alors, comment restituer? Ben, écoutez, ce qu'on voulait pas faire, c'était une biographie classique, un récit classique qui commencerait à la naissance et qui aboutirait à la mort.
Donc, c'est pas une adaptation en bande dessinée des mémoires du général?
Non, pas du tout. On s'en est servi, hein, cependant, bien sûr. On s'en est servi, évidemment, ces mémoires d'espoir, notamment. Mais ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose de plus pointilliste. Des moments importants de sa vie et de l'histoire de la France, puisque finalement à travers la vie de Gaulle on peut raconter l'histoire de France entre 14 et 70. Donc un moment peut-être tragique pour l'histoire de France, la Première Guerre mondiale, le moment où il a été prisonnier, ou le moment où peut-être il a moins pesé sur l'histoire, effectivement, mais qui a été un moment extrêmement formateur pour lui. Et sans cette captivité, il n'y aurait peut-être pas eu le général de 1940.
Et déjà, vous mettez en avant son côté héroïque.
Alors oui, héroïque, mais il y a un côté très vieille France aussi. C'est-à-dire que au départ, il part en guerre vraiment avec comme tout l'état-major, ces idées de sacrifice, cette idée qu'on doit être à la tête de ces hommes, gants blancs, avec l'épée à la main et avec des charges de cavalerie, etc. Et baïonnette au canon pour l'infanterie. Et on va découvrir une guerre qui est une guerre industrielle, qui est une guerre moderne et qui n'a rien à voir du tout avec la guerre napoléonienne qui est dans les esprits. Seulement finalement dans la captivité que de Gaulle se met à réfléchir et à critiquer ses chefs. Et ça, il commence finalement à être plus politique que militaire. Voilà. Donc après, on raconte pas l'entre-deux-guerres. On a une autre BD sur 1940,
le moment décisif,
voilà, le moment où tout s'écroule, et puis et lui qui maintient la lumière de l'espérance avec cet appel du 18 juin. On a le moment de 44, extrêmement important, parce qu'il est oublié. Quand on parle de Gaulle, pour tous les Français, évidemment, c'est l'appel du 18 juin, c'est aussi le fondateur de la 5e République, mais c'est l'appel du 18 juin d'abord. Et on oublie 44. Juin 44, c'est un moment extrêmement important, puisque c'est là où il tient tête à Eisenhower, il tient tête à Churchill, et c'est le moment où il pose la France, vraiment, l'impose dans le camp des vainqueurs. Alors qu'ils voulaient la placer, eux, dans le camp des pays libérés, gérés par une administration interalliée. Et donc, elle aurait été placée de fait dans le camp des, non pas des ennemis, mais des pays libérés qui ne comptaient plus. Et il l'impose dans le camp des vainqueurs avec un strapontin. Et pour ça, pour tenir tête aux Américains, aux Anglais, alors qu'il en dépendait complètement, financièrement, militairement, etc., c'est une bataille extrêmement rude qui a lieu les 4 et 5 juin, à la veille du débarquement. Et puis enfin, le dernier tome, centré sur mai 68, la fin, une fin un peu peut-être un peu pitoyable pour un homme qui a été si grand, mais c'est vrai qu'il ne comprenait plus son époque. Et ceci dit, il sort de mai 68 par le haut quand même, puisqu'il y a ces fameuses élections de juin 68 qui le qui lui font un triomphe, hein, des fameuses élections de la peur.
Les quatre tomes sont effectivement basés sur des dates clés de la vie de Charles de Gaulle. Chaque tome se termine avec un petit cahier où on a des documents, des photos, c'est restitué. Alors il y a un côté didactique, comme si c'était une envie de raconter le général de Gaulle à ceux qui n'ont pas connu de Gaulle.
Alors, ben évidemment, évidemment, parce que vous savez, des biographies, il y en a plein de Gaulle et de Trépanne. Alors, si on veut se documenter sur de Gaulle, si on veut lire sur de Gaulle, ben oui, prenons des livres. Mais la BD, c'est aussi un média qui est tourné vers un public plus jeune. Ben, moi, j'ai été professeur, donc je sais que les jeunes lisent de moins en moins. Et par contre, ils lisent de la BD. Et lire de la BD, c'est aussi une façon de faire de la BD, c'est aussi une façon de transmettre, je crois. Et puis lire de la BD, c'est une façon aussi d'apprendre.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Charles de Gaulle, c'est le titre de la BD, des quatre tomes de la BD. Vous êtes au dessin, Claude Plumail. Comment le duo a été formé?
Ben là, c'est par l'entremise de notre éditeur, en fait.
Grand Angle.
Et donc, Hervé Richer, qui est notre directeur de collection, nous a mis en relation. Il avait vu ce que je faisais déjà. Et on avait d'abord travaillé sur les taxis de la Marne avec Jean-Yves. Donc on a poursuivi avec Charles de Gaulle. Voilà, c'est comme ça un petit peu que ça s'est passé. C'est souvent le cas, hein. Souvent l'éditeur met en relation les auteurs. Enfin, c'est certainement une.
Et comment on travaille ensemble, quoi. Est-ce que le scénariste historien Jean-Yves Le Naour, vous avez tout écrit et vous avez envoyé ça au dessinateur Claude Plumail et vous vous êtes occupé de tout, c'est-à-dire du découpage, bien sûr des dessins, ou est-ce que c'était un travail en commun et en continu?
Ah bah de toute façon oui Jean-Yves avait écrit complètement l'histoire, enfin tome par tome évidemment. Ensuite il y a quand même une discussion un petit peu avec Hervé, bon il met les choses au point, mais Jean-Yves c'est lui qui écrit évidemment toute l'histoire, et ensuite il me transmet le scénario entièrement fait, et ensuite moi comme vous dites je me suis occupé du reste, c'est-à-dire je fais la mise en scène, je mets en image en fait l'histoire qu'il raconte par l'écrit, et voilà, c'est comme ça qu'on travaille.
Ensuite, entouré de documents, de photographies de toutes les époques parcourues par la saga de Gaulle.
Ben mon challenge moi c'était en fait je voulais pas utiliser les photos, je ne voulais pas être prisonnier des photos. La bande dessinée reste un art de l'interprétation graphique des choses. Donc moi j'interprétais Charles de Gaulle avec évidemment des documents à l'appui pour en tirer les caractéristiques principales, mais je ne travaillais pas avec des photos. Et donc ensuite, une fois que je fais ce travail d'interprétation, une fois que j'ai réalisé la mise en scène, je propose à Jean-Yves, on en discute, et puis s'il y a des choses que je n'avais pas bien comprises et qu'on est obligé de corriger, à ce moment-là, je corrige. Mais voilà, il y a toujours, entre nous deux, des informations qui passent, de manière à ce que je dessine son histoire. On doit absolument.
Non, mais là, en l'occurrence, c'est l'histoire du général de Gaulle. Est-ce que votre vision du général de Gaulle a changé, a évolué après ces 4 bandes dessinées réalisées autour de sa vie, son œuvre, ses combats surtout?
Ah oui, bah, de toute façon, ce qui m'avait surtout plu au tout départ, quand on me l'a proposé, c'était parce que c'était le général de Gaulle. Mon père m'en avait beaucoup parlé. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'en connaître encore davantage sur lui. Ça me faisait plaisir, en fait, de lui faire plaisir. Et donc, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça m'a plu. Hein. Voilà.
Alors, pourquoi ça s'appelle le général de Gaulle? Il n'y a pas de... C'est pas le héros de Gaulle. C'est pas grandeur et décadence du général de Gaulle. Ça reste très neutre.
Et oui, neutre, parce qu'effectivement, si vous aviez choisi...
Tenter qu'on puisse rester neutre devant oui, l'histoire.
Bien sûr. L'historien, lui, officiellement, doit l'être, il doit être impartial, évidemment, mais tout ça, c'est évidemment impossible à tenir, on est toujours de son temps, et on a toujours un point de vue. Mais effectivement, si on avait choisi un sous-titre, il y aurait eu une ligne, un engagement, et comment dire, on nous l'a reproché d'ailleurs, parfois, sur un tome, je pense au tome 2, on a eu des critiques comme vous êtes trop louangeur, vous en faites un héros, il a toujours raison, etc. Et puis le tome 4, on a eu d'autres critiques disant vraiment vous le présentez comme un dictateur, c'est inacceptable, vous le présentez comme un petit vieux gâteux, etc. Donc ce qu'on voulait, c'était aussi être libre, parce que vous avez raison quand vous dites c'est l'histoire du général de Gaulle. Oui, mais c'est l'histoire du général de Gaulle en BD, c'est-à-dire que évidemment, comme l'a dit Claude, il y a une mise en scène et il y a les codes de la fiction, et donc ça sera jamais l'histoire pur à 100% tiré des archives. Fatalement, il y a des pauses, il y a des mots qu'on lui fait dire. Il y a était-il debout, était-il assis, a-t-il tapé du poing sur la table. Il n'y a pas de témoin pour raconter ça, même quand on sait ce qui s'est passé. Il faut donc aller vers le vraisemblable à défaut du vrai.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est quand, après le départ du général de Gaulle, on revient sur son parcours, et notamment à travers ces 4 bandes dessinées éditées par Grand Angle, avec au scénario l'historien Jean-Yves Le Naour et au dessin Claude Plumaille, mes deux invités d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une bande dessinée contemporaine? Autrement dit, aurait-on fait la même BD il y a 20 ans? Racontera-t-on la même histoire du général de Gaulle dans 20 ans, Jean-Yves Le Naour?
Effectivement, vous faites bien de poser la question, mais c'est la question qui vaut pour tout regard sur le passé, c'est-à-dire que une BD, une production, une œuvre est toujours de son temps, que ce soit un roman, que ce soit un film, que ce soit une bande dessinée, c'est toujours écrit à un instant T. Et quand on écrit, moi je suis historien, on écrit sur la Première Guerre mondiale, on écrit évidemment différemment aujourd'hui qu'en 1920 ou qu'en 1945. Effectivement, là, on a du recul, effectivement, parce que il y a des choses qui sont passées au tamis de l'histoire, alors que quand un personnage est héroïsé et que vous écrivez au lendemain de sa mort, regardez, hein, il y a eu une censure de Harakiri qui a disparu, tout, parce que en une, ils ont osé se moquer du général de Gaulle, et encore, c'était un peu soft, hein. À la mort du général de Gaulle, il y a eu cette fusion de deux informations. Il y avait eu un incendie dans une discothèque, et puis et la mort du général de Gaulle. Bon, donc il était difficile peut-être en 70 de faire un récit qui soit le plus historique possible et qui en même temps respecte le code narratif de la fiction, etc. Je pense, puisque dans les récits historiques qu'on avait dans les années 70, dans Spirou, dans Tintin, les fameuses histoires de l'oncle Paul, etc., c'était des récits qui étaient tout à fait héroïques. C'était la tranchée des baïonnettes, on mourait, le sacrifice, etc. Et il y avait assez peu de distance, et on ne mettait pas... Les personnages, ils n'étaient pas en ombre et lumière, quoi. Concrètement, la Première Guerre mondiale du général de Gaulle, c'était quelque chose d'assez ignoré, d'assez traumatisant pour lui. On n'aurait pas pu raconter ça vraiment de son vivant. C'était quelque chose qu'il cachait. Pour lui, c'était sa grande blessure. C'était une humiliation, un déshonneur d'avoir été réduit à la captivité. Aujourd'hui, on ne voit plus un prisonnier pendant la Première Guerre mondiale comme quelqu'un de déshonoré. Mais il faut imaginer qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, par exemple, un officier perdait son droit à l'avancement, ses années de captivité ne comptaient pas dans sa retraite, etc., etc. Oui, pour De Gaulle, c'était une grande souffrance, et je pense que ce passage de sa vie, à la fois n'intéressait pas parce qu'il n'était pas peut-être au premier plan, et en même temps, il ne s'agissait pas de salir cet homme.
Autour de De Gaulle, il y aura une soirée spéciale sur France Culture. On va parler aussi du général De Gaulle, visionnaire de l'Europe. Ce dimanche, soirée spéciale sur France Culture, une soirée spéciale qui va commencer avec une soirée qui commencera avec Théâtre et Compagnie, une adaptation des Chiens de Conaba, vous savez, ce livre d'André Malraux. André Malraux qui créa le ministère de la Culture en 59, qui fut le premier ministre de la Culture, mais le 11 décembre 1969, il est allé voir le général chez lui, à la Boisserie. Ils vont passer une soirée à discuter, et à partir de cet échange, à partir de cette soirée, Malraux va écrire un livre. Alors, c'est un livre entre fiction et réalité, bien entendu, mais là, par exemple, ce qui ressort de cet échange, c'est quand même le général de Gaulle et sa vision de l'Europe. Donc, on l'entendra, et d'ailleurs, tout de suite après cette pièce de théâtre, il y aura une soirée animée par Guillaume Herner qui a adapté justement les Chiens de Conaba, et Emmanuel Laurentin avec notamment Régis Debray. Effectivement, aujourd'hui, puisqu'on est dans cette Europe qui a du mal à se former, le général de Gaulle devient une référence en ce qui concerne l'Europe. Est-ce qu'il y avait des thèmes d'aujourd'hui qui vous passionnaient pour raconter, pour revenir sur la carrière du général de Gaulle à travers cette bande dessinée?
C'est pas le présent qui m'a porté pour parler du passé, mais ceci dit, le présent effectivement est toujours là, et c'est par le présent qu'on lit le passé. Alors, vous avez raison de dire que De Gaulle finalement n'est pas tout à fait mort et qu'il continue à inspirer un certain nombre de politiques, mais aujourd'hui on voit que il y a une certaine forme de trahison peut-être de Gaulle, puisque aujourd'hui ses idées sur l'Europe, elles sont essentiellement c'est plutôt l'extrême droit qui s'en revendique, c'est-à-dire les héritiers de l'OAS et de l'Algérie française qui aujourd'hui parlent d'Europe des patries, etc. Mais Il tente d'annexer De Gaulle, alors que De Gaulle, évidemment, ses idées, elles valaient pour les années 60. Il ne convient pas de faire un parallèle entre les années 60 et aujourd'hui.
Mais il était visionnaire, parce qu'il disait, il ne s'agit plus de savoir si la France fera l'Europe, il s'agit de comprendre qu'elle est menacée de mort par la mort de l'Europe. Cette phrase du général De Gaulle, elle est brûlante d'actualité.
Oui, brûlante d'actualité, mais là on est encore dans un contexte particulier qui est celui de la guerre froide, qui est celui d'une Europe qui est complètement occidentale, qui est complètement alignée sur les États-Unis, et de l'autre côté, du rideau de fer, il y a une Europe qui est complètement alignée, enfin elle n'est pas alignée, elle est caporalisée, intégrée dans l'Empire soviétique. Donc ce que veut De Gaulle, c'est une Europe qui soit européenne, c'est les mots qu'il emploie. Un jour peut-être surmonter ce rideau de fer, d'où ses visites en Roumanie, en Pologne, etc., mais une Europe qui soit européenne, qui soit puissante et puissance, c'est-à-dire dégagée à la fois.
Et ça, c'est présent dans votre bande dessinée. Avec un certain humour, d'ailleurs, hein, puisqu'il était applaudi à un moment où il était beaucoup moins en France.
Oui. Effectivement. Et puis l'autre point sur de Gaulle sur l'Europe, donc à part l'Europe qui soit détachée des États-Unis et de l'URSS, c'est une Europe confédérale. C'est absolument pas un fédéraliste, de Gaulle. Et dernier point, il ne veut pas de l'intégration du Royaume-Uni. Il considère que le Royaume-Uni, cheval de Troie des Américains, mais surtout aussi sa mission historique, ce sera de paralyser la construction politique de l'Europe, de n'en faire qu'un marché. Donc il a mis à deux reprises son veto à l'intégration du Royaume-Uni.
À une époque où le Brexit s'annonce plus compliqué que prévu, comment ne pas penser au général de Gaulle? Claude Plumail, pour terminer, ça a été facile de trouver le général de Gaulle crayonné, dessiné par vous?
Je me suis appuyé évidemment sur les photos pour vous dire, avoir les caractéristiques principales. C'est une fois qu'on a trouvé le truc, ça va tout seul. Mais pour la première fois dans une histoire, dans une bande dessinée ou des bandes dessinées, j'avais à faire vieillir un personnage. Mmh. Et là, ça a été en fait un challenge pour moi parce que c'est pas la coutume dans la bande dessinée, quoi.
Bah oui.
Donc j'ai fait vieillir.
Et même les deux, hein. On peut même dire les deux, parce que pour ceux pour qui le général de Gaulle c'est d'abord l'appel du 18 juin, vous l'avez d'abord fait rajeunir dans les premiers tomes,
exactement.
Et après le faire vieillir jusqu'à la fin.
Voilà, exactement. Puisqu'il a 25 ans, hein, quand il est, oui. C'est les tout débuts. Donc, comme vous dites, il a fallu le rajeunir et puis progressivement ajouter des traits, et puis jusqu'à le vieillir, jusqu'à le faire les cheveux blancs et tout ça. Enfin voilà, c'était mon challenge pour cette histoire graphiquement.
Et les ayants droit, les historiens et les éditeurs, ils avaient un droit de regard sur votre représentation du général de Gaulle?
On m'a pas fait de remarques. Enfin, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit non, c'est pas possible, il ne peut pas être comme ça. Enfin, je veux dire, ça a été non. Même à un moment donné, on était en relation avec la fondation de Gaulle.
On était soutenu par la fondation.
Voilà, fondation de Gaulle. Non, ils m'ont pas fait de reproches. J'ai été exempt de reproches de ce côté-là.
Bravo. C'est que le scénario est excellent.
Voilà.
Alors, s'il fallait parler de ces quatre bandes dessinées pour terminer, diriez-vous que c'est une bande dessinée qui retrace le parcours du général de Gaulle et qu'à la fin de ces quatre tomes, on comprend qui était le général de Gaulle ou encore mieux? Que c'est une bande dessinée sur le gaullisme et qu'à la fin, on sait ce que c'est que le gaullisme. Ah, ce qui est pas la même chose, hein.
Non, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, le gaullisme, on a beaucoup de mal à le définir. On a beaucoup de mal à le définir. Il y a un gaullisme de gauche aussi, avec Louis Vallon, etc. Donc, c'est comme le macronisme. On sait pas trop ce que c'est. Et le gaullisme, beaucoup de gens vont s'en réclamer après la mort de De Gaulle. Mais De Gaulle disait lui-même que le gaullisme n'existait pas. Alors donc, c'est très difficile à dire ce que c'est que le gaullisme. Alors moi, je dirais que c'est pas seulement une BD sur De Gaulle. C'est une BD sur l'histoire de France. À travers le personnage de De Gaulle, on va découvrir des moments tragiques et des moments importants, essentiels de notre histoire.
Jean-Yves Le Naour, merci beaucoup d'être venu en compagnie du dessinateur Claude Plumaille. Je rappelle que Charles de Gaulle est une bande dessinée en 4 tomes éditée par Grand Angle. Et je vous rappelle la soirée spéciale sur France Culture ce dimanche avec Les chaînes qu'on abat, donc la pièce adaptée par Guillaume Erner à partir du livre d'André Malraux, suivie d'une rencontre animée par le même Guillaume Erner en compagnie d'Emmanuel Laurentin avec des invités, notamment Régis Debray. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.